Bonsoir Marie.
Bonsoir Arnaud. Ce soir, nous partons vers la Patagonie, car nous allons entendre l'histoire incroyable des Yaganes, ce petit peuple du sud du Chili que l'on croyait totalement décimé. Le quotidien Le Courrier a en effet publié la semaine dernière un article qui raconte comment ces survivants ont réussi à faire reculer une multinationale. Nous sommes ce soir avec Jeremia Cometti. Bonsoir, vous êtes directeur de l'Institut d'ethnologie à l'Université de Strasbourg. Et à vous lire, on a l'impression d'être dans une version contemporaine du combat de David contre Goliath.
Bah, en fait, cette histoire, elle est nouvelle aussi pour moi parce que je l'ai découvert en janvier. J'étais censé en fait aller dans les Andes au Pérou, continuer à travailler avec l'Equero, c'est la société avec laquelle je travaille depuis les dernières 10 ans. Et comme ma sœur en fait habite à Santiago du Chili, je suis allé à Santiago et je suis tombé un peu par hasard sur cette histoire de la première en fait communauté autochtone qui est arrivée au Chili à faire vraiment sortir de leur territoire une compagnie privée. Donc à l'occurrence en fait vous l'avez dit, l'industrie du saumon qui est le deuxième exportateur plus grand du pays après le cuivre. Qu'ils exportent sont du saumon, notamment au Japon et aux États-Unis. Il faut penser qu'ils arrivent aussi à exporter massivement aussi du saumon en Écosse, qui après, ils les retravaillent, les fumaient et les vendent ensuite comme un saumon écossais. Donc, cette histoire m'a assez passionné. Peut-être une anecdote, c'est que quand j'étais au laboratoire d'anthropologie sociale à Paris, j'ai eu la chance, la grande chance d'être dans le bureau qui était le bureau de Claude Lévi-Strauss. Il y avait un panier que je regardais tous les jours, mais je ne savais pas d'où venait. Et un jour, il y a une photographe d'origine colombienne, si je ne me trompe pas, et me demande en fait si elle pouvait photographier le panier derrière où je travaille tous les jours. Et après les photographies, je lui demande « mais vous pouvez me dire quelque chose sur ces paniers ?» Et la photographe me dit « c'est le panier en fait qui appartient à Lola Kiepa, qui est la dernière représentante du Selknam, cette communauté autochtone aussi de la Patagonie, de la Terre des Feux, qui en fait a offert à l'anthropologue qui travaillait avec eux à l'époque, donc Anne Chapman, et Anne Chapman ensuite l'a offert en fait à Lévi-Strauss. Il y a aussi des photos qui montrent en fait le passage. Donc j'avais aussi construit un peu ce mythe qu'il n'y avait plus des sociétés en fait dans la Terre du Feu. Et j'étais aussi moi-même étonné quand j'écoutais cette histoire. Et quand en fait je suis arrivé au Chili en janvier 2020 et je me suis justement aperçu de cette lutte, et qu'en réalité, je devais faire un documentaire sur le carnaval dans les Andes, qui est un peu tombé à l'eau pour des raisons, en fait, un caméraman que j'ai pas trouvé. J'ai un peu suivi, en fait, le conseil qu'avait donné aussi Claude Lévi-Strauss à Descola, quand Descola demande à son maître et directeur de thèse, qu'est-ce que je dois faire, en fait, au niveau méthodologique. Lévi-Strauss lui dit, laissez-vous guider par le terrain. Le jour même, Philippe Descola m'avait écrit un courriel, on me dit, mais sautons une terre en plomb d'après vous. Je dis, bon, il y a trop de signes. J'ai acheté un ticket et je suis allé au fond de la Patagonie avec ces Yaganes et à étudier un peu leur lutte contre cette industrie.
Ce que l'on perçoit dans l'article et dans ce que vous dites, c'est qu'il se joue autre chose que le conflit économique. Peut-être une tension qui vient d'un rapport à la nature qui est fondamentalement différent d'une autre.
Oui. Alors, peut-être juste pour expliquer un peu ce qui se passe en Patagonie, mais aussi au nord de la Patagonie, donc dans la région de Chiloé, il faut peut-être revenir à il y a 4 ans, en 2016, quand, à cause d'une algue ou microbe, plus de 30 000 tonnes de saumon sont mortes, en fait, dans des cages de cette industrie du saumon. Les industries ne savaient pas quoi faire de ce saumon. Et ils ont décidé, avec l'aide aussi du gouvernement, de jeter cette 30 000 tonnes dans la mer. Chose qui a causé, en fait, la mort de pingouins, des dauphins et des lions des mers. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'une grande ONG comme Greenpeace s'est intéressée de la situation et a commencé, en fait, à enquêter sur les dégâts qui fait cette grosse entreprise, notamment sur la perte de biodiversité à l'intérieur de ces communautés. Et au début, en fait, en 2016, les Yaganes, les 100 personnes, une centaine de personnes qui représentent encore les Yaganes, voyaient pas encore le problème arriver. Parce qu'en fait, l'État avait déjà donné des concessions pour pouvoir exploiter, en fait, les mers. Mais en fait, il n'y avait pas des cages. Il faut penser qu'une cage est grosso modo, comme un terrain de foot. Quand, en 2019, en janvier, les entreprises arrivent, ils commencent, en fait, à mettre ces cages, les Yaganes contactent, en fait, Greenpeace. Ils se mettent ensemble pour gagner contre cette entreprise du saumon. À cause des concessions qui étaient légales, aussi à cause de l'image de cette communauté en lutte, et ils ont réussi en fait à gagner cette lutte. Mais une chose intéressante, et c'est ça que j'analyse, c'est que pour les Yaganes, en fait, Ils ont vécu depuis 5, 7 000 années en relation très étroite avec la mer. Quand, en fait, le gouvernement est arrivé, notamment dans les années 50, 60, 70, pour mettre une base militaire, il faut penser qu'à l'époque, il y avait des tensions entre l'Argentine et le Chili avec les deux dictatures militaires pour l'accès justement à l'Antarctique. À l'époque, en fait, les Yagans sont mis presque comme une réserve à côté de cette base militaire. Le gouvernement introduit plusieurs lois qui les interdit en fait de pêcher parce qu'ils doivent avoir un certain niveau d'études, un certain niveau aussi de structure dans les bateaux et ils perdent cette relation à la mer. Et cette nouvelle génération qui est en train d'arriver, ils sont en train de se réapproprier ce qui était la relation qu'ils avaient en fait leurs ancêtres, si on peut dire, à une ressource qui n'est pas à considérer comme en fin d'Occident quelque chose qu'il faut ou exploiter si on se met dans le camp de l'industrie ou seulement à défendre, on dit, mais bien sûr, du camp des ONG, mais c'est quelque chose de plus. Et le maire, en fait, fait partie d'eux, si vous me permettez cette expression.
Est-ce que l'importance des relations aux non-humains change radicalement le rapport des hommes à leur environnement? Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui se joue aussi derrière cette histoire.
Bien sûr, c'est la raison qui m'a poussé à aller au sud du continent, donc en Patagonie, parce que je m'intéresse aussi à des nouvelles possibilités, en fait, juridiques. On voit très bien qu'on a tendance au niveau juridique à traiter toujours ces ressources, comme je l'ai dit avant, ou des biens à exploiter, ou des biens à conserver, mais jamais comme des entités qui font partie d'un collectif. Et quand je dis un collectif, c'est un collectif d'humains, mais aussi des êtres non humains. Et donc, c'est difficile de traduire en termes juridiques de l'état moderne ce type de conflit. En anthropologie, on parle plutôt de conflit ontologique, justement, parce que c'est deux réalités qui s'opposent. Et c'est intéressant de voir, je ne dis pas qu'on arriverait à donner des droits à la mer, même si dans des constitutions comme l'Équateur, la Bolivie, on a déjà donné des droits à la nature, mais dans la réalité, on voit très bien que ces droits ne sont pas si effectifs, sont quand même considérés du point de vue occidental. Ce que je trouve intéressant, historiquement parlant, avec le cas chilien, c'est que justement, une année avant le vote pour la nouvelle constitution, une communauté autochtone a gagné cette lutte très importante environnementale. Là, le mois passé, ils ont voté pour la nouvelle constitution qui sera écrite. Je rappelle, c'est encore la constitution qui avait fait Pinochet pendant la dictature. Et là, les ONG, les populations autochtones, notamment les Mapuches, qui sont les plus politicisées au Chili, sont en train de revendiquer aussi un autre type de vision des droits. On a des cas comme le fleuve Vanangui en Nouvelle-Zélande, dans lequel le Parlement néo-zélandais a donné des véritables droits au fleuve et les droits des êtres humains seraient subordonnés à ces fleuves. Alors, il y aura encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que tout ce type de conflit montre une voie possible et intéressante à explorer, pas seulement pour les anthropologues.
Merci beaucoup, Jérémy Accometti.
Et merci à vous, Marie Sorbier.